Et on ouvre à présent la dernière et longue séquence de notre émission d'aujourd'hui en compagnie de deux invités, deux cinéastes, Nourrit Aviv et Oren Nataf. La première se voit offrir par le jeu de paume une rétrospective de ses films jusqu'au 23 septembre. Pour commencer, Nourrit Aviv, comment est-ce que vous vivez ce moment singulier quand même dans un parcours d'artiste que constitue une rétrospective?
Je dois dire que je suis très impressionnée, mais pour être dans ce musée qui était le musée des impressionnistes, hein. C'est impressionnant.
Impressionnant, ça permet de revenir et de regarder aussi autrement son travail, de voir un peu où on en est.
Écoutez, c'est vient de commencer et c'était hier l'ouverture avec une rencontre avec Hélène Cixous. Il y avait des émeutes, les gens pouvaient pas rentrer, ils râlaient, ils ont réservé, ça a commencé avec ces émeutes. Bon, on était content qu'il y avait beaucoup de monde, pas content qu'ils n'ont pas pu tout pour leur mécontentement, mais c'est bien quand même.
Alors, on va en parler plus longuement tout à l'heure. Il y a à la fois les films de Nourrit Aviv, la cinéaste, la documentariste, et puis les films dont Nourrit Aviv a fait l'image en tant que chef opérateur. Alors, c'est quand même dans la photographie que vous avez fait vos débuts, photographie de presse. Qu'est-ce qui vous manquait, si c'était le cas, dans l'image fixe qui vous a donné envie d'aller du côté de l'image animée et de passer le concours de l'IDEC, Nourrit Aviv, et de rentrer dans le monde du cinéma?
Bon, peut-être c'était la volonté de dépasser mon père qui était photographe de presse. Peut-être.
Bonne raison
peut-être
déjà.
Peut-être c'était...
Bon, on va parler aussi... de psychanalyse beaucoup
avec vous
tout à l'heure.
Non, hein. C'est peut-être aussi... Je crois qu'il y a aussi une interdiction autour de ne pas... Est-ce qu'on a le droit de dépasser son père, etc. Mais les choses se sont passées très... C'était un peu le hasard de la vie que... J'avais 18 ans, j'ai vu deux films, je sais pas, Bergman, Alain René, etc. Après, les papes est venu, et j'étais alarmée, j'ai rencontré les gens des Paris Match, voilà, et qu'ils ont vu une petite soldate qui fait les photos, et alors, ils m'ont invité de venir, bon. Après, j'ai dit au mec des Paris Match, j'aimerais faire du cinéma, je vais mettre la photo. Et il a dit, on parlait anglais, il a dit why not, mais juste parce qu'il parlait pas l'anglais. Et moi, après les why not, ça m'a fait travailler toute la nuit. Et quelques mois plus tard, j'étais à l'IDEC, voilà. Et comme chef, évidemment, on voulait me convaincre de faire le montage, parce que les femmes faisaient pas absolument, c'est la première, et que moi je venais de la photo, je comprenais pas pourquoi on veut que je fasse de l'image, voilà. C'est comme ça, mais j'étais pas consciente que j'étais la première femme chef opérateur, au début à l'IDEC, et après la première femme chef opératrice en France, mais j'étais pas consciente de, parce que quand on sait pas que les autres, il y a pas les autres, on sait qu'on a envie de faire ça, quoi.
Alors, on va reparler de cette envie et surtout de votre cinéma dans un instant, Nourrit Aviv. Et puis, il y a des films où vous signez l'image. C'est vrai que vous êtes, disons-le simplement, de meilleurs chefs opérateurs, pour dire ça au sens générique, j'emploie le masculin du cinéma. Agnès Varda, Jacques Doyon, Amos Guitaï, René Alliot, William Klein, bien d'autres. Vous avez filmé l'image, vous avez signé l'image de leur film. Quand on entend ici ce discours, donc, qui est prononcé d'une façon très, pas cynique, mais très, il croit ce qu'il est en train de dire, hein. Il faut que l'image soit simple. Il faut que la personne qui allume son téléviseur comprenne tout de suite la nature d'une image. Quand on travaille comme vous l'image pour les autres et pour vous-même, il faut aller aussi contre cette image majoritaire. Il faut réintroduire de la complexité dans une image, Nourrit Aviv.
Il faut faire ce qu'on sent qu'on doit faire et pas s'essuyer de moi, je pense, je dirais. Parce que de toute façon, on croit savoir ce que le spectateur va penser, on n'en sait rien. Donc même quand on croit savoir, bon, moi je sais pas. Je sais que bon, ces films que j'ai faits, ils sont considérés comme difficiles. D'ailleurs là, le dernier film que j'ai fait, c'est le premier film qu'Arte n'a pas voulu acheter en disant que c'est trop pointu. Et bon, il y a quand le film passe au cinéma, le dimanche avec un débat, on remplit une salle, on remplit une autre, donc. qu'est-ce qu'on en sait? Et c'est pas aussi le nombre de spectateurs, c'est ce qui se passe après. Et là, ce qui concerne le film, je vois que les gens, quand ils quittent la salle, ils restent, même si c'est à minuit, ils restent devant la porte encore à parler, des gens qui se connaissent pas. Bon, que demande le peuple, hein?
Bah, de parler, d'avoir peut-être plus de questions en sortant alors d'un livre, d'un film, d'une exposition que des réponses. Ce sont des documentaires que vous signez. Il y a le grand plaisir de voir un travail qui se déroule sur du temps, sur des années, et qui creuse des questions. Vous parlez du dernier film en date, Langue parlée, langue sacrée.
Mais ce film, Langue sacrée, langue parlée,
mais ce film-là, il est né d'un précédent, d'une langue à l'autre. D'ailleurs, grâce à vous, j'avais reçu dans une émission Tout arrive en direct de Jérusalem le poète arabe israélien Salman Nasala, qui était présent dans votre documentaire D'une langue à l'autre. Vous interrogiez déjà la question de la langue, la question de qu'est-ce que c'est que l'hébreu par rapport à l'hébreu du livre et l'hébreu que l'on parle aujourd'hui dans l'État d'Israël. Un film peut naître d'un autre et un autre peut naître de celui-ci, toujours.
Oui. Mais en fait, ça a commencé un peu avec Circoncision, ce qui était, toujours la même question, qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qui se perd. Et Circoncision, le mot circoncision en hébreu veut dire Mila. C'est-à-dire les deux circoncisions et les mots, c'est les mots en hébreu, ce que je me fais comprendre.
Oui.
C'est-à-dire qu'on dit Mila pour dire les mots, on dit Mila pour dire la circoncision. D'ailleurs, Derrida, après, j'ai vu que, j'ai vu que Derrida, justement, il a écrit un livre qui s'appelle, un texte qui s'appelle Circonfession. Et du coup, il y avait comme ça, et après, il y avait Vatersland qui joue ça en Allemagne, et que.
C'était aussi sur la perte, davantage.
La perte, sur la transmission, qu'est-ce qui se transmet pas, qu'est-ce qui se transmet, et aussi, c'est un jeu de mots un peu en allemand, parce que Freud parlait de deuil et la perte, et il donne un exemple de perte de la patrie qui s'est dit Vaterland, et là je fais un jeu de mots, Vatersland, le pays du père. Alors on sait pas si c'est le père allemand ou juif allemand déjà, donc on est dans le mot, et voilà, donc c'est l'hébreu, c'est la transmission, c'est les passages de l'un à l'autre, qu'est-ce qui se perd en route, qu'est-ce qui se transmet, qu'est-ce qui revient sur la surface, qu'est-ce qui est refoulé, bon. Et c'est beaucoup aussi, là, les deux derniers films, c'est la langue, mais c'est aussi un peu le rapport entre les juifs et les israéliens, C'est-à-dire que pour moi, langue sacrée, c'était la langue qu'avaient les juifs à côté de leur langue parlée. Il y avait leur langue sacrée qui avait les statuts, qui même dans les langues juives s'appelle la langue sacrée, c'est le nom de la langue. Et une fois qu'avec le sionisme qu'elle s'est mise à parler, cette langue des juifs, pour les Israéliens, c'est la langue parlée.
חקוקות בכל, חצובות ברוח, קבועות בפה, בחמישה מקומות, בגרון, בחיך, בלשון, בשיניים, בשפתיים. 22 אותיות שקשר בלשונו, וגלה את סודו, משכן במים, דלקן באש, רעשן ברוח, בערן בשבעה, דהגן בשנים עשר מזלות, 22 אותיות, חקקן חצבן שקלן המירן צירפן צר בהם. נפש כל יצור, וכל העתיד לצור.
Antoine Guillot,
ce qu'on entend là, ce n'est qu'une partie de ce qu'on ressent quand on voit langue sacrée, langue parlée, puisque c'est Victoria Hanna qui va chanter, scander un poème qui s'appelle 22 lettres, sur les lettres de l'alphabet hébreu, d'après le livre de la création. Et là, pour le coup, souvent, on est content d'entendre quelque chose, d'entendre le son d'un film. Mais là, il manque quelque chose de très important dans votre cinéma, c'est que cette langue passe par un corps. Et une réflexion comme ça qui tend votre cinéma, c'est comment filmer de la langue, et ça ne peut passer que par du corps. Et c'est ça qui est très émouvant. Et il faut voir Victoria Hanna complètement investie dans ce qu'elle dit pour comprendre un peu sur quoi repose votre cinéma.
Mais vous savez, c'est un texte qui date, on croit qu'il date du deuxième siècle. Hein. C'est un texte mystique qui raconte la création du monde avec les lettres de l'alphabet. Évidemment hébraïque, n'est-ce pas? Et c'est un texte, et quand je crois qu'un enfant qui va l'écouter, aujourd'hui, il comprend, c'est la langue d'aujourd'hui, il comprend presque tout. Hein. Il y a peut-être ici et là un mot, mais donc elle chante comme ça, elle est là dans... Vous savez, elle était enceinte, elle était au 9e mois, et d'habitude, elle chante ça très, très... Et j'ai dit, c'est très bien que tu es enceinte, c'est bien, tu ne bouges pas, je le veux le plus récité possible, je trouve que c'est super, oui. Mais je crois que pour moi, les corps existent encore plus quand il y a cette parole, parce que du coup, comme il n'y a pas beaucoup de coupes, comme c'est comme ça, on sent les corps, je les montre toujours en entier à un moment, et aussi comme on... Il y a l'image, il y a le fond, et c'est tout d'un coup ça. Je crois que c'est, pour moi, c'est très charnel. On écoute beaucoup la différence de la musique.
Parce que vos films aussi reposent toujours sur des dispositifs formels importants. La question de l'héritage, c'est aussi l'héritage du cinéma, puisque là, encore une fois, on va avoir ce film d'un opérateur des Frères Lumière, Alexandre Promiot, qui avait fait cette prise de vue sur le train Jérusalem-Jaffa.
1897.
Hein, et on sait que les Frères Lumière ont eu la très riche idée d'envoyer des opérateurs dans le monde entier. Donc là, c'est vraiment effectivement...
C'est un des premiers travelling. Hein.
Bah oui, parce qu'il est dans le train.
Il a eu l'idée de le mettre, c'est les trains qui bougent, la caméra est fixe. Mais les trains bougent.
Il est dans le train. Et donc, vous jouez avec ça. Donc, il y a la transmission. Et puis, je parlais de psychanalyse tout à l'heure. On a parlé souvent et ça intéresse beaucoup de gens. Mais ça vous intéresse particulièrement, cette naissance conjointe du cinéma, de la psychanalyse, des rayons X aussi. Hein,
c'est le sionisme.
Le sionisme, évidemment. Et cet hébreu moderne, tout ça, ce sont des choses, des thématiques qui sont à l'œuvre dans votre cinéma et dans vos films, Norita Vive, que vous questionnez inlassablement et de façon croisée, c'est ça qui est absolument passionnant aussi.
Oui, mais quand vous dites, c'est-à-dire qu'en fait, je trouvais que cette année 1897, les Frères Lumière envoient Alexander Promiot pour filmer en Terre Sainte, et qu'il fait c'est un des premiers travelling à partir du train, que les congressionnistes, à la même année, Herzl, il dit qu'on va parler toutes les langues en disant qui parmi nous va pouvoir acheter un billet de train, donc il fait référence de train, dans cette langue, donc lui propose que dans cet état futur, on va parler toutes les langues,
oui.
Et certainement l'allemand en premier, croit-il. Et voilà, mais il donne comme exemple le train, n'est-ce pas? Et Freud, qui commence après la mort de son père en 1996, a commencé à écrire ses rêves, donc c'est le début de la psychanalyse. Donc c'est comme si à la même au même moment, il y a ces différentes interprétations des rêves, hein, parce que tout le monde parle des rêves, et bon, avec ces trains, que du coup j'ai pris comme un motif qui revient, ce voyage du train de Jérusalem. Eux, ils ont fait de Jérusalem à Jaffa. Aujourd'hui, c'est Jérusalem Tel Aviv, parce que Jaffa a été annexé à Tel Aviv. Donc, c'est les mêmes chemins. Et bon, que je fais justement de Jérusalem, la sacrée, à Tel Aviv, la profane, entre guillemets. Hein.
Antoine,
ce travelling a beaucoup d'importance, effectivement, dans le film, aussi parce qu'il part de paysages immémoriaux, comme ça, et puis peu à peu, ça s'urbanise, et on arrive vers une contemporanéité qui... L'importance du travelling chez vous, j'aimerais que vous nous en parliez, parce que c'est pas la première fois qu'il y a ça chez vous. Dans Vatersland, il y a un long travelling sur Berlin depuis...
Pour le film, c'est un travelling, c'est 30 minutes d'un travelling.
Depuis le métro, et quand on revoit maintenant un film comme Circoncision, moi que je découvre, que j'ai découvert en travaillant
cette émission...
Circoncision, on dit à un moment, c'est par une coupure que se fait un lien. Et je me demande à quel point le travelling n'est pas là aussi pour faire du lien.
Oui. Oui. En fait, c'est vrai qu'il est construit comme... Bon, je parle maintenant de langue, parce qu'on a de langue sacrée, là, on parlait. Il est construit mouvement, arrêt. C'est-à-dire qu'il y a ces rapports entre... On s'arrête, on... Bon, il y a aussi les chaises vides, hein, entre... Et oui, je sais pas, la symbolique de... du train. Ah, mais
c'est pas
j'aimerais,
c'est vraiment du, cinéma pour le
coup. Oui, exactement. Pour moi, c'est vraiment le travelling, hein, parce que tout de suite, bon, dès qu'il y a un train, on dit choix. Mais
on peut penser cinéma.
On peut parler. Mais justement, je commence avec les cinémas, avec ces travelling extraordinaires de ce 1897. Hein,
1897, c'est l'année de Great Train Robbery aussi, un des premiers westerns, la grande attaque du train.
Ah,
me semble-t-il.
Vous voyez, les trains.
Donc c'est la même année.
On est en train de.
Alors, il faut signaler que Langue sacrée, langue parlée est ressortie au cinéma Les Trois Luxembourg et qu'il y a de nombreux débats qui sont programmés jusqu'au 26 octobre et à chaque fois vous y serez.
Ça va continuer.
Bon, alors, ça, j'ai le programme jusqu'au 26 octobre, donc on va le noter sur, d'abord on peut le trouver sur votre site internet, noritaviv.free.fr, dire par exemple que la semaine prochaine, mardi 23, 21h, c'est avec Marc-Alain Wacklin que vous débattrez et puis beaucoup de gens, tous
d'abord,
Alain Flecher,
Maurice Orlander.
Ah, c'est demain.
Oui, Maurice Orlander, ça commence avec Maurice Orlander.
Alain Flecher demain. Bon, beaucoup de monde à retrouver. On va le mettre sur notre site. Et puis le jeu de paume, c'est très important parce que c'est jusqu'à mardi prochain, le 23 septembre, à la fois des films dont vous avez signé La Lumière. On a parlé ici notamment avec Nicolas Philibert de moi, Pierre Rivière ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère. Lorena Alliot, c'est vous qui en avez fait l'image.
Les films de Varda,
vos propres films. Et puis les émissions d'Inart, la nuit de Paul Loisan, évidemment, l'atelier de recherche Arte France. Voilà, beaucoup de choses
plus
à voir.
Plus expérimental de tout le...
De tout votre travail. Voilà, beaucoup de choses à découvrir au Jeu de Paume. Et puis donc, enfin en salle, 20 minutes de bonheur, Reine Nataf, signé avec Isabelle Friedman. Ça y est, vous pouvez passer à autre chose maintenant, maintenant que c'est sorti.
On verra.
Vous n'arrêtez pas le cinéma, vous?
Je sais pas, je me posais la question.
C'est vrai? Bon, en tout cas, merci à tous deux d'être venus nous parler de ces films. Alors, que l'on peut voir au Trois Luxembourg, au Jeu de Paume, et puis dans toutes les bonnes salles pour 20 minutes de bonheur.